9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Compte tenu de la vague de chaleur qui frappe la France et dans la mesure où on nous en parle depuis le début de la semaine, c'est donc en maillot de bain que Maître Serran vous salue, mes camarades auditrices et auditeurs. Et oui, aujourd'hui, mon cher Philippe, l'émission se fera donc toute la matinée en slibard. Tout ça à cause, paraît-il, du réchauffement climatique. Alors la question qui est posée tous les jours à la télé est, faut-il s'habituer à de telles chaleurs ? Bon, ça va, c'est supportable, ça aurait pu être pire, on aurait pu être en plein Ramadan. D'ailleurs, mon cher Philippe, je vais suivre les conseils qui ont été donnés par les spécialistes qui nous ont demandé solennellement de rappeler à nos aînés que tous les quarts d'heure, ils doivent boire. Ma mission consistera donc aujourd'hui, outre le fait de répondre aux questions de nos auditeurs, de vous rappeler en votre qualité d'homme le plus âgé de cette radio de boire. Je ne veux pas que vous séchiez comme une vieille figue. Avez-vous bu, mon cher Philippe ? Ah, vous faites un signe positif de la tête, donc me voilà rassuré, je peux continuer, vieux bonhomme. Cette semaine a bien évidemment été marquée par cette épreuve qui, alors, selon moi, ne sert à rien, mais qui embête tous les élèves de terminale, l'épreuve de philosophie. C'est un grand mystère, cette épreuve. On tente de t'initier à la philosophie en terminale. Et en à peine une année, on considère que tu as des bases suffisantes pour en faire une matière au bac. De mon temps, quand on avait philo, on considérait qu'on pouvait sécher le cours. Ça nous semblait tellement abstrait comme matière. Alors que c'est bien connu, si tu veux réussir ce type de matière, il n'y a pas mieux que de s'enfiler 3 jours d'affilée. Et tu seras en relation directe avec Platon. Alors parmi les sujets, on a vu les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ou encore discuter et se renoncer à la violence. 4 heures de prise de tête sur une matière que tu ne pratiqueras plus jamais de ta vie, sauf évidemment si tu es prof de philo. Mais la vie, ce n'est pas que de la philo. C'est aussi les élections législatives. Avec cette grande inquiétude du président, devra-t-il composer avec une majorité relative ? Y aura-t-il une déferlante de la NUPES pour certains, NUP pour d'autres, voire même NUPS pour les plus téméraires ? C'est vrai que dire à chaque fois « nouvelle union populaire, écologique et sociale », c'est un peu long. Alors si on pouvait juste se mettre d'accord sur la manière de prononcer cet acronyme, on aura déjà fait un grand pas, de toute manière. Si dimanche, il fait encore hyper chaud, ne comptez pas sur mon vote. Je serai, mon cher Philippe, mais vous le savez, dans votre grande piscine. Et je vous remercie de m'avoir invité au sein de cette somptueuse propriété. Allez, après avoir permis à nos auditeurs de fantasmer sur ce dimanche qu'on passera dans votre village, j'invite ces derniers, alors non pas à venir nous rejoindre, faut pas déconner non plus, mais à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser leurs questions. Émission sous le contrôle de celui qui doit donc boire tous les quarts d'heure, monsieur Philippe Robichaud, qui a sa petite bouteille à côté. À vous, maestro. Voilà, commencez par une petite gorgée d'eau.
Voilà, je suis hydraté, maître Serran. Vous savez que la philo, ça fait partie des matières qu'on regrette plus tard de ne pas avoir
faites. Mais c'est exactement ça.
C'est très à la mode, hein, maintenant, la philo.
Ouais. Qui font de... C'est exactement ça.
Non, non, on en fait trop tôt, c'est comme le latin. Ouais. Il faudrait en faire plus tard pour qu'on puisse...
On en fait trop tôt et puis... Une année, à l'époque, on se posait la question de savoir quel est ou quel serait l'intérêt de ça. C'est, moi, je veux bien, on peut même commencer en seconde tout doucement avec des petites notions. Mais un an à plein temps en terminale, j'ai trouvé ça rébarbatif.
Et combien avez-vous eu à votre épreuve de philo, maître Charles ?
Alors, j'ai vague idée, mais probablement entre 17 et 20, probablement. Probablement, enfin voilà, un ou deux points près, ça devait tourner autour de ça. Bon, j'ai eu 11. Pas glorieux.
Ah, c'est moyen. Alors ça, 11, c'est super moyen.
Oui. Je viens de dire, c'est pas glorieux.
Ouais.
Voilà. Mais
qu'est-ce que vous aviez mis en intro ?
Oh, alors déjà, il faudra que je me souvienne du...
En intro, en général.
Ouais. Dans tous les sens du terme intro, hein. Voilà. Dans tous les sens terme, je suis très bon en intro.
Je vais donc enchaîner discrètement. Je rappelle que vous pourrez poser vos questions tout à l'heure en direct à Maître Serran. Question juridique au 01 53 48 3000, mais nous allons parler du droit du travail ce matin. Avec cette question, est-ce qu'on peut faire valoir ses convictions religieuses en entreprise ? Une question qui vous est inspirée également par votre pratique, hein, maître Serran, et un client qui a voulu être muté.
Le cas pratique. Vous savez d'ailleurs, quand on passe les épreuves pour devenir avocat, on a souvent un cas pratique. Donc c'est toujours intéressant. Alors le cas pratique est le suivant. On a un monsieur qui travaille dans un abattoir depuis X années, donc jusque-là pas l'ombre d'une difficulté. Et puis le responsable de la société donc a invité ce monsieur à changer de lieu et dans cette nouvelle société, enfin nouvelle société, dans ce nouveau lieu, il s'occupe, alors il s'agit d'un abattoir, on a exclusivement que du porc. Des cochons. Ce monsieur donc est venu voir puisqu'il me dit que c'est un grand religieux, que c'est pas possible, qu'il a même été hajj, donc que c'est indiscutable et c'est pas possible d'être.
C'est contraire à ses convictions religieuses.
Il me dit que malgré tous les efforts, il pourra pas. Il a donc refusé entre guillemets gentiment. Alors pas en disant écoutez c'est contraire à mes convictions religieuses, mais en disant entre guillemets, ça m'arrangeait pas. C'est beaucoup plus loin comme lieu de travail. J'ai des enfants. Il y a les écoles. Enfin, voilà. Donc, il est pas dans un premier temps, ce qu'on peut comprendre, il a pas indiqué que c'était pour des raisons religieuses. Deuxième courrier de la société, en indiquant que on l'invitait effectivement donc à occuper ce poste, et on lui rappelle que dans son contrat, il y a une clause de mobilité. Donc ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand vous avez une clause de mobilité, ça veut dire que moi, employeur, j'ai le droit de vous demander d'aller à droite, d'aller à gauche, sans aucune difficulté, puisque c'est un contrat que vous avez signé. Et on part du principe que si vous l'avez signé, demain après-demain, si je vous demande de vous éloigner éventuellement, ou de vous rapprocher, peu importe, vous devez l'accepter. Deuxième refus de la part du salarié. Et puis, troisième courrier de la société, et cette fois-ci, c'est un courrier de licenciement. On considère que refuser la décision du dirigeant est la conséquence donc d'une obstination, et donc ça constitue une faute aux yeux de l'employeur. Donc on en est là pour le moment. La difficulté qui se pose, c'est que, vous voyez, on utilise souvent le terme jurisprudence dans cette émission pour que les auditeurs comprennent bien. La jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence, ce sont des décisions qui ont déjà été rendues pour des cas similaires et qui vont dans tel ou tel sens. Et au moment où on se parle, la jurisprudence de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en la matière, va plutôt dans le sens de la société, dans le sens du dirigeant. C'est-à-dire que je suis le salarié, j'ai en plus dans mon contrat une clause de mobilité, je ne peux pas mettre en avant mes convictions religieuses pour refuser telle ou telle affectation. Alors, on va contester cette décision, mais honnêtement, on est un peu borderline, parce que pour l'instant, cette jurisprudence, on dit qu'elle est constante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé d'un iota pour le moment.
Et là, encore une fois, on parle d'entreprises privées. Hein.
Alors ça, c'est important, ouais, vous avez raison. Sont des entreprises privées, puisque, évidemment, à partir du moment où on est dans tout ce qui est entreprise publique, la question ne se pose pas. Hein. Il y a le principe de neutralité, avec le sacro-saint principe de laïcité, donc la question ne se pose pas. On est dans le cadre d'une entreprise privée. On avait évoqué une partie de ce type de problème qui se pose, donc à savoir dans les entreprises privées, les femmes qui venaient en portant le voile. Donc la question avait déjà été évoquée, mais là on va au-delà. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dit moi je refuse d'occuper tel ou tel poste en raison de mes convictions religieuses. Je le redis, pour l'instant, la jurisprudence est favorable à l'employeur, à la société, donc on considère qu'on n'a pas à mettre ça en avant. Donc c'est, en tout cas si le conseil de prud'homme ne nous suit pas, ça veut dire que le licenciement serait justifié. Même chose, alors on peut toujours contester, aller devant la cour d'appel, mais encore une fois...
On gagne du temps.
On gagne du temps, sauf que d'abord, les procédures sont très longues. Et puis, pendant ce moment-là, la société va évidemment pas vous garder. C'est-à-dire que vous êtes toujours licencié.
C'est-à-dire que même avant le résultat du jugement, vous êtes licencié.
Non.
Ça vous maintient pas, ça vous protège pas.
Voilà, on va pas sursoir à votre licenciement. C'est-à-dire, je vous licencie, je veux plus vous voir au sein de ma société. Vous avez le droit de contester. Alors, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans. Vous pouvez aussi interjeter appel, on va rajouter un an et demi en plus, mais tant que la juridiction, soit le conseil de prud'homme, soit la cour d'appel n'a pas statué, vous restez en suspens comme ça. Donc évidemment, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien de tout ça. Je peux éventuellement vous verser votre solde de tout compte, mais ça s'arrête là. Et si vous demandez des dommages intérêts et autres, vous serez suspendu, on attendra. la décision qui sera rendue par les magistrats.
Alors, quand il y a un licenciement pour faute dans ces cas-là, à quoi le salarié peut-il prétendre ? Il n'y a pas d'indemnité.
Non, c'est ça, c'est toute la difficulté.
On n'est pas dans le cadre d'un licenciement négocié qui aurait été discuté en disant, je peux pas aller abattre des cochons.
On peut effectivement avoir une sorte de discussion, une négociation, et puis accepter de rompre le contrat, mais des deux parties, l'employeur, le salarié, ils disent bon ben on va mettre fin à notre contrat, donc par convention. C'est pas si la qualification reste le licenciement pour faute. Vous n'aurez pas, et c'est ça, ça se
c'est
joue là-dessus.
C'est au tort du salarié, en fait.
C'est au tort du salarié. Il n'y a pas d'indemnisation particulière. Ce sera pas considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là, ça veut dire qu'on met un petit coup de gourdin sur la tête de l'employeur et puis vous aurez le droit de solliciter des indemnités de licenciement. Pour faute, vous asseyez plutôt sur tout ça, quel que soit. Votre ancienneté, c'est ça aussi qui est
est-ce que le rôle de l'avocat justement à ce moment-là, c'est pas de rentrer en négociation avec l'entreprise et se dire bon écoutez, vous comprenez bien que là on va faire preuve de bon sens.
Mais c'est exactement ça. Et vous avez raison, c'est-à-dire que la mission de l'avocat, c'est pas foncer tête devant comme ça pour dire OK, on va charger. Donc le déroulement, c'est quoi ? C'est, malgré la lettre de licenciement, renvoyer un courrier à la société ou même les contacter par téléphone. Alors, soit on discute directement avec la société, soit ils vous orientent vers leur avocat et puis on a une discussion pour voir effectivement si on peut apaiser les esprits et puis que tout le monde s'y retrouve gentiment. Et en particulier pour ce salarié qui a quand même des années d'ancienneté derrière lui. Donc ce serait quand même dommage de mettre fin à tout ça. Donc la discussion se fait là, mais après c'est comme tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont, alors pour l'instant ils n'ont pas fait, mais ils feront peut-être une proposition d'indemnisation à l'amiable. Et puis si ça ne convient pas, si on considère que c'est largement en dessous de ce qui pourrait éventuellement être obtenu par un conseil de prud'homme, la question se posera. Mais selon moi, cette jurisprudence que je viens d'évoquer de la Cour de cassation, je pars du principe que leur avocat la connaît également. Donc, ils partent quand
ça
même.
Ça ne peut pas être requalifié en licenciement abusif.
Non. Tel que c'est exposé par le salarié, je vois pas de requalification possible en la matière. Voilà. C'est-à-dire que il reste sur ses positions, et c'est tout à fait louable, je peux l'entendre et le comprendre. Il reste sur ses positions en disant, sur un plan purement religieux, je ne peux pas. Sauf qu'au moment où on se parle, cette argumentation, n'est pas prévue par le Code du travail, et ce d'autant plus que cette histoire de clause de mobilité apparaît sur son contrat de travail. Il y a aussi cet aspect-là. Si dans votre contrat de travail, il n'y a pas cette clause de mobilité, on peut éventuellement discuter. Mais là, le contrat de la société me semble quand même bien ficelé. Et puis, je vous dis, avoir une jurisprudence en leur faveur.
Les gens, ils font pas souvent attention à cette clause de mobilité parce qu'ils disent, j'ai été affecté là, donc en gros, c'est à côté de chez moi. Et puis, le jour où il faut partir.
C'est toute la difficulté. Alors, j'allais presque dire, je peux le comprendre. Vous venez de signer un contrat, vous avez des personnes qui ont parfois galéré.
Vous allez pas prendre la tête.
Voilà, pour avoir un CDI. Et puis, il faut quand même, j'allais presque dire, oser. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un contrat, un CDI. Vous allez dire quoi? Même si vous voyez la clause de mobilité, dire, attendez, vous êtes gentil, je veux pas, on peut discuter. Vous êtes pas en position de force à ce moment-là. Donc, c'est terrible. Mais c'est malheureusement, comme dirait l'autre, le principe, entre guillemets, de la vie des puissants et de ceux qui le sont moins. Mais il faut quand même y jeter un œil et lire votre contrat complètement. Faites attention à ça.
Maître Serran, vous poserez vos questions en direct dans un instant. Je rappelle le numéro du standard de C'est tout droit, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Allez, vous pouvez poser vos questions juridiques à Maître Serran en direct au 01 53 48 3000 qui répond et qui a toutes ses facultés intellectuelles en dépit de la chaleur.
Il fait chaud, effectivement.
Maître Serran, vous n'êtes pas impacté par la canicule ?
Non, je dors toujours. Donc la chaleur ne m'impacte pas.
D'accord. Quand vous dites vous dormez toujours, vous voulez dire ça ?
Ouais. Déjà, dans la journée, je ne mets pas de slibard. Vous imaginez bien que la nuit, on évite ça. Mmh. Voilà, donc ça a une légère petite clim, légère, hein, pas, ouais. pas trop, faut pas s'enrhumer du... Donc, ça va.
C'était alerté par la recrudescence des jeunes qui se rendent au lycée.
Oui, oui. Alors c'est extraordinaire ça. En plus, j'avais vu, il y a eu un reportage il y a pas si longtemps, mais j'étais pas directement, on va dire, confronté à ça. Et j'étais contacté par des parents pour deux de leurs enfants qui se rendent à l'école en Gelaba, enfin au lycée. Et le chef d'établissement les a, entre guillemets, enfin pas encore, puisque, j'allais dire, les a sanctionnés. D'abord, il leur a interdit d'entrer dans l'école. Et puis, il y a éventuellement un conseil de discipline, puisque les gamins, a priori avec l'accord des parents, donc refusent, alors pour des raisons pour l'instant honnêtement assez mystérieuses, j'ai pas eu d'explication particulière, refusent de retirer leur jeu là-bas pour aller à l'école. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur et que quand vous baladez en jeu là-bas, ça circule et puis vous vous sentez mieux. J'ai pas de, pour l'instant, d'explication. Les parents me disent simplement que leur garçon a envie de porter une gel là-bas. Donc il y a aucune raison que l'établissement scolaire puisse leur interdire ça. C'est-à-dire qu'ils sont quand même prêts à aller au clash pour voir entre guillemets si l'établissement alors va maintenir sa position. Mais selon moi, oui, puisque on a eu alors juste un échange téléphonique avec alors pas avec le chef d'établissement mais avec le conseiller pour dire qu'effectivement il confirmait que tant qu'il changeait pas de tenue vestimentaire, il n'y avait pas de, en tout cas la présence au sein de l'établissement,
pas de réintégration, ouais,
n'était pas possible. Mais ce sont des questions qui ne s'étaient évidemment, ça fait quoi, 24-25 ans que je suis avocat, ce sont des questions qui ne s'étaient jamais posées, jamais. Voilà. Alors il y a eu cette histoire du voile et il y avait eu toute une série de procès à l'époque, mais jamais la question s'était posée de savoir est-ce qu'on pouvait aller à l'école en là-bas ou pas, parce que en tout cas les gens de ma génération se posait pas cette question. C'est vrai que comme ça, spontanément, c'est ce que j'avais dit aux parents, ça ne viendrait pas à l'idée de dire à mes enfants, ou même si mes enfants me disent je vais à l'école et puis si je le vois, je vais mettre en jeu là-bas, ça pose pas problème. Je crois sincèrement, je leur dirais, bah non, tu vas peut-être laisser ta jeu là-bas à la maison, éventuellement pour aller à la mosquée si tu veux, mais à l'école. Donc même maintenant, c'est une question qui se pose. Ça m'interroge.
Et donc, en cas de conseil de discipline, quel est le rôle de l'avocat? Est-ce qu'il a sa place dans ce genre de juridiction?
Alors, il faut savoir, quel que soit le conseil de discipline, vous avez la possibilité d'être assisté par un avocat. Maintenant, sur un plan sincèrement purement stratégique, on s'en rend compte, mais on le dit hein, aux parents, je ne sais pas si stratégiquement c'est intéressant, si c'est bon de faire appel à un avocat. Alors pourquoi? L'avocat, quand on intervient au sein d'une juridiction, quelle que soit la juridiction, il y a des règles à respecter et les règles sont imposées par le président de la juridiction. Ça veut dire que lorsque l'avocat est en train de plaider, on peut pas lui couper la parole. Vous voyez, dans un procès pénal, le procureur de la République n'aurait jamais l'idée de dire « Non, mais attendez, maître, ce que vous dites et ceci ou cela, c'est pas possible. » Lorsque vous plaidez, l'avocat de la partie adverse ne peut pas vous couper la parole. Les personnes qui sont défendues par le confrère ne peuvent pas vous couper la parole. Et puis, s'il devait y avoir ce type d'incident, le magistrat intervient immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de l'avocat que ce qu'il puisse plaider fasse plaisir ou pas, mais on va le laisser plaider. Un conseil de discipline, j'en ai fait plusieurs, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'un conseil de discipline, quand vous commencez à intervenir, pour peu que vous êtes en train d'expliquer que le chef d'établissement, que le conseiller a eu tort, branle-bas de combat. C'est-à-dire que vous avez le professeur principal, le chef d'établissement, le conseiller et autres. Parfois, ils se lèvent en disant « Non, mais attendez, maître, vous pouvez pas dire ça. » C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avocat ou pas, vous avez effectivement envie de prendre la table qui est devant et de leur lancer en pleine poire, parce que le rôle de l'avocat, c'est aussi d'expliquer. Mais si on laisse pas l'avocat le temps d'expliquer, ça pose une difficulté. Donc, dans un conseil de discipline, ces règles basiques que l'on rencontre au sein des tribunaux ne sont pas respectées. C'est ce qui me fait dire souvent aux parents qui souhaitent qu'un avocat intervienne dans le cadre du conseil de discipline. Je leur dis, écoutez, sincèrement, Alors d'abord, c'est toujours mal vu en disant c'est quoi cette famille, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais ils se la racontent, ils font appel à l'avocat. Et puis, l'avocat... Et
justement, est-ce que c'est, ça joue en faveur...
Non, c'est contre-productif. Sincèrement, c'est contre-productif. Encore une fois, le...
C'est que l'administration n'aime pas que les familles arrivent avec un avocat.
L'administration, l'école n'aime pas que vous puissiez dire, attendez, le dossier va être consulté par maître X, par maître Y, et puis le jour où l'enfant va se présenter, il sera assisté par l'avocat. C'est pas encore dans les mentalités des chefs d'établissement. Et puis, la difficulté, c'est que, alors oui, l'avocat, vous le prenez, il va venir et puis il va plaider, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps de plaider? Et je vous dis, moi j'ai eu cette expérience, on en arrive parfois au clash, c'est-à-dire que c'est assez musclé, mais on vous laisse pas terminer. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, et je le redis, vous dites quelque chose qui ne fait pas plaisir à un prof ou autre, on vous coupe la parole, on se lève, oh, bah, écoutez, maintenant ça suffit. Ça n'existe pas dans un procès classique. Voilà, vous pouvez plaider 10 minutes ou vous pouvez plaider 3 heures, personne ne va vous couper la parole. On va vous écouter, le magistrat va vous écouter, et le magistrat qui a la police de l'audience intervient s'il y a une difficulté. Après, l'avocat peut être utile si le conseil de discipline rend sa décision et puis qu'elle ne vous est pas favorable. À partir de ce moment-là, vous pouvez contester la décision et faire appel à l'avocat. On revient... avec des personnes civilisées qui vont vous écouter, vous pouvez prendre des écritures, mais honnêtement, au sein d'un établissement public ou privé, ils considèrent que vous venez les ennuyer, c'est-à-dire c'est une petite cuisine entre eux, et vous êtes le cheveu, comme ça, qui est dans la soupe, qui vient embêter tout le monde, et on ne veut pas de vous. Donc, c'est... Vous savez, même quand l'avocat, quand on contacte l'établissement pour dire, voilà, maître Serran, pour la famille XY, on vient consulter le dossier, il y a toujours un blanc, et puis on vous dit, ah bah attendez, donc ça remonte, c'est-à-dire qu'on va essayer d'appeler le chef d'établissement, il faut absolument que le chef d'établissement vous prenne en ligne, on vous demande pourquoi, mais c'est un principe, c'est-à-dire que votre enfant est embêté sur un plan disciplinaire par l'école, vous avez le droit de demander à un avocat d'intervenir et donc de consulter le dossier, ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Et même les chefs d'établissement ont du mal à accepter ça, et ils ont encore plus de mal de vous recevoir le jour de, on va dire, de l'audience pour l'avocat et puis du conseil de discipline pour l'école. Et puis c'est toujours, j'allais dire, impressionnant, parce que il y a au moins 20 personnes et puis vous êtes en bout de table avec votre client à côté. Et je vous dis, ce qui est embêtant, c'est que vous savez très bien qu'il y a, en règle générale, ça se passe malheureusement toujours mal. À tout moment, on vous coupe la parole et vous pouvez pas terminer. Il m'est arrivé X fois de demander même, c'est toujours une personne qui joue l'équivalent du greffier de noter ce qui se dit. Et puis quand vous leur dites, attendez, il y a telle remarque, je vous invite à, vous voyez bien qu'il y a une réticence, et quand vous reprenez le procès verbal, cette mention que vous souhaitiez inscrire n'apparaît pas. Donc c'est un truc qui sert un peu à rien, malheureusement, l'avocat dans ce type...
Sa place n'est pas prévue dans ce type de juridiction.
Non. Encore une fois, les chefs d'établissement n'aiment pas ça, les profs encore moins, puisque vous pouvez aussi, et c'est notre boulot, critiquer le comportement d'un professeur. Ça, c'est pas toujours à cause d'un élève, hein. Mais ils aiment pas ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est une sorte de sanctuaire. Chez nous, on fait ce qu'on veut, et puis on a décidé de renvoyer l'élève. Et ben, on le renvoie, mais ils veulent pas, ou ils peuvent pas, en tout cas, se remettre en cause. Et il y a cette solidarité entre profs, c'est-à-dire que même si un collègue sait que il y a eu peut-être une exagération de la part de l'un ou de l'autre, évidemment ça ressortira jamais dans le cadre du conseil de discipline.
Vous allez vous faire des amis, maître Serran.
Ouais, ça, c'est terrible.
Vous étiez bien jusque là.
Oui, mais
et là,
vous savez, j'ai eu un conseil de discipline d'un membre de la famille très proche, donc j'y étais il y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, donc je sais de quoi je parle. Et effectivement, de toute manière, on n'est pas là pour se faire des amis. C'est pour ça, j'ai horreur de ce genre d'audience, parce que les gens vous écoutent pas. Et le propre de l'avocat, c'est qu'à minima, on a le droit de pas être d'accord avec lui, mais on écoute les arguments, puisque on rapporte les arguments de la famille. Donc c'est pas anodin de renvoyer un gamin. Donc ce serait bien quand même d'avoir les deux sons de cloche. Mmh.
Donc, a priori, l'avocat peut servir de conseil, mais voilà, il vaut mieux qu'il reste en coulisses.
Sincèrement, oui.
Voilà, qu'il soit prend en première ligne.
Et éventuellement, après, contester la décision du conseil de discipline, il n'y a pas de difficulté, puisqu'on se retrouve devant une juridiction composée de gens civilisés. Mais
qu'est-ce que vous appelez des gens civilisés ?
Les gens civilisés sont des gens qui respectent simplement les règles de la bienséance, c'est-à-dire que vous avez
le droit... des gens du civil, c'est pour ça.
Non, rien à voir. Civilisé dans le sens où encore une fois, vous êtes au sein d'une juridiction, il y a une personne qui dit voilà, je me plains de ça et puis on va laisser la parole à votre avocat pour expliquer ce que ça correspond à une réalité, ce qu'il y a des circonstances atténuantes. Dans le cas d'un conseil de discipline, on vous dit écoutez, on reproche ça à cet élève. Et puis quand vous essayez d'apporter la contradiction, on vous regarde de travers et on vous dit bah non, que l'élèvement, et quand bien même hein, vous auriez des attestations, ce qui est d'ailleurs très difficile, alors des attestations d'autres élèves pour dire que bah oui, mon camarade a raison, vous imaginez bien. Donc c'est honnêtement, enfin voilà, on prévoit, la loi prévoit l'intervention de l'avocat, mais de manière effective, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les chefs d'établissement ne respectent pas ces règles-là, ils s'en foutent royalement. Heureusement qu'il y a ensuite des juridictions avec des magistrats professionnels. D'ailleurs, c'est assez surprenant que ce soit pas même présidé par un magistrat professionnel. Il y aurait peut-être besoin de ça. Donc, faudrait peut-être revoir la manière dont tout ça est organisé. Ils sont jugés partis. Mmh. Bah, je porte l'accusation et en même temps, c'est moi qui vais dire si moi, chef d'établissement, j'ai raison ou pas. En règle générale, on se donne souvent raison à soi-même.
Bien, merci pour cet éclaircissement, Maître Serran. Allez, si vous avez des questions à poser à Maître Serran, vous le ferez dans un instant. 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien, beaucoup de réactions hein, suite à ces élèves hein, qui veulent aller en Djellaba. On fera une émission là-dessus. Maître Serran.
Je viendrai en Djellaba.
Voilà, tiens, par exemple, vous irez au palais. On va à Toulouse pour l'instant, et c'est Edine qui est avec nous. Edine.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour Maître Serran.
Bonjour Edine.
Oui, c'était juste pour un petit renseignement, là. J'ai une cousine qui vit en Algérie, et qui est de père français. Elle a déposé à Paris, au tribunal administratif, d'une demande de certificat de nationalité française.
Ouais.
Et ça traîne depuis plus de 2 ans.
Alors, vous avez utilisé le terme de tribunal administratif qu'on va laisser de côté. C'est effectivement le service de la nationalité française pour toutes les personnes qui demeurent à l'étranger. Ce service de la nationalité française a ce qu'on appelle en droit une compétence exclusif, c'est-à-dire il n'y a que ce service qui s'occupe de ces personnes-là. C'est effectivement à Paris, c'est pas loin du nouveau palais de justice Porte de Clichy. Alors, c'est particulièrement long, pas parce que les personnes qui gèrent ce type de dossier sont ou seraient des personnes feignantes, mais il y a eu une explosion des demandes de certificat de nationalité française de la part des compatriotes algériens. Donc une explosion. Donc effectivement, ça nécessite quand même beaucoup de temps pour pouvoir examiner tout ça. On examine notamment les actes d'état civil, puisqu'il y a aussi des faux documents qui ont circulé. Donc on essaie de vérifier si tout ça correspond à une certaine réalité.
Puisque c'est naissance du père à la sortie de Nantes.
Ouais, mais vous savez, c'est normal, mais moi, j'ai entre guillemets le même problème au cabinet, où on me dit, ah, mais maître, c'est long. Parce que chacun ne pense qu'à son dossier. Mais je peux vous assurer que des demandes de certificat de nationalité française, il y en a des tonnes. Donc, il faut aussi prendre ça en considération, hein, même si c'est compliqué, même si le temps que vous me donnez est un temps particulièrement long. Alors, faut pas hésiter à les relancer. Ce qui arrive parfois, c'est assez surprenant, mais j'ai eu souvent le cas, c'est-à-dire que on relance, en qualité d'avocat, on relance les services. Ouais. Et puis les services vous disent, mais attendez, maître, nous on a déjà répondu. Vous savez, quand vous prenez un avocat, en fait, le service de la nationalité vous donne pas la réponse à vous, avocat. Nous, on reçoit un courrier pour dire, écoutez, on a apporté une réponse à votre client. À charge pour nous de nous rapprocher de notre client. Et assez régulièrement, le service de la nationalité me dit, mais maître, voilà, vous nous relancez, mais nous, on a déjà répondu à votre client. Donc ils envoient le courrier au pays, puisque les uns et les autres sont domiciliés au pays. Et alors je sais pas si l'équivalent de la poste au pays est performant ou pas, mais très souvent les correspondances n'arrivent pas à destination. C'est-à-dire que quand j'appelle le client pour dire attendez, j'ai un courrier du service de la nationalité qui me dit que vous avez déjà eu une réponse et parfois il y a 6 mois ou il y a 1 an, le client me dit mais maître, nous on n'a rien reçu. Alors
oui, mais maître, aujourd'hui, il communique par email, alors.
Hein. Non, monsieur, on reçoit pas. Oui, mais on reçoit pas de décision du service de la nationalité par mail. Même si le système d'accord. Ouais, voilà. Hein. Alors, effectivement, ça pourrait être plus simple. Mais vous recevez un courrier par la voie classique, et vous recevez pas de réponse par mail. Hein. Donc ça, c'est important. D'accord, et je vous dis, même quand vous êtes avocat, on reçoit un courrier toujours voie classique. Pour nous dire, maître, on a répondu à telle date à votre client, merci de vous rapprocher de lui. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que l'intéressé relance quand même le service. Ouais. Alors, je dis pas que le service de la nationalité va lui dire, on a déjà répondu, mais ça peut être le cas.
D'accord.
Donc, il faut les relancer.
Pour vous, c'est normal que ça prend plus de 2 ans, là.
Alors, vous savez, monsieur, enfin pour le client, 2 ans, c'est par définition pas normal. Mais dans ce type de dossier, malheureusement, c'est la pratique assez classique. Et je le redis encore une fois, vous savez, quand l'administration fait n'importe quoi, on est les premiers à le dire. Mais là, en l'occurrence, ils ont beaucoup de boulot. Comme d'habitude, il n'y a pas suffisamment de personnel, et donc ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Alors oui, ça prend du temps. Et puis c'est pas une priorité non plus. L'État va pas se donner les moyens pour éventuellement traiter des dossiers pour demain dire ben un tel est de nationalité française. Donc vous voyez, c'est pas la priorité non plus de l'État français de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes de l'autre côté de la Méditerranée qui soient demain qualifiées de personnes de nationalité française. Donc je l'entends, hein, je le comprends, voilà. Mais donc oui, c'est long. Mais malheureusement, j'allais dire avec de gros guillemets, c'est normal en la matière. Encore une fois, c'est pas parce que l'administration est feignante, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers de personnes de nationalité algérienne invoquant cet aspect-là. Donc, à part relancer, malheureusement, il n'y a rien d'autre.
D'accord.
Voilà. Et je termine juste pour dire que souvent, on me dit, mais est-ce qu'on peut saisir un tribunal? Non, on ne peut saisir le tribunal que si on reçoit une réponse et que si, évidemment, cette réponse est négative. Ensuite, c'est le tribunal judiciaire. C'est le grand palais de justice, là encore, à Paris, qui a une compétence exclusive. Mais tant que le service de la nationalité n'a pas répondu, même quand vous avez un avocat, à part des relances, on peut rien faire d'autre. On est obligé d'attendre.
D'accord.
Voilà.
Ben, je vous remercie, maître. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour cet appel.
Alors, merci Philippe, à bientôt.
Au plaisir. On a Jamel qui est avec nous au 01 53 48 3000. Jamel, bienvenue.
Oui.
Bonjour. Allô Jamel. Oui.
Bonjour maître.
Bonjour Jamel.
Bonjour maître.
Bonjour Jamel.
Oui, je vous écoute.
Ben moi aussi.
Voilà, je suis citoyen français, binational bien entendu.
Ouais.
Français. Je suis retraité. Je suis père de 4 garçons, dont 3 sont venus en France étant binationaux. Et je suis divorcé en Algérie. Et j'ai abandonné un garçon là-bas.
D'accord.
Ça devient vraiment un abandon et j'ai besoin de... C'est-à-dire qu'il a besoin de me voir et j'ai besoin de le voir aussi. Et on lui refuse tout visa, alors que, à ma connaissance, la réglementation, elle dit que il a droit à un titre de séjour vie privée et familiale.
Alors, c'est le terme abandon. Quand vous dites abandon, c'est quoi? C'était, bon, alors il est resté non. Là-bas, mais vous avez quand même des contacts ou alors vous vouliez plus le voir? C'est dans quel
j'ai
sens?
Des contacts, sauf que moi, je ne peux pas rentrer en Algérie. Moi, je suis un opposant politique en Algérie. J'ai été opposant politique.
D'accord.
Donc, voilà, on lui refuse le visa. À chaque fois, on lui refuse le visa pour venir. Moi, j'ai besoin de voir.
D'accord. Le motif qui est invoqué, monsieur, c'est quoi? Quand on refuse le visa, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous savez, il y a des petites cases et ils mettent des petites croix. On lui dit quoi?
Non, il ne donne aucun argument.
Alors, normalement, alors d'abord, est-ce qu'il a reçu un courrier pour dire on vous donne pas de visa?
On lui envoie un message. votre demande a été rejetée.
Alors, ça me semble assez particulier. Alors, vous avez bien compris, je ne remets pas en doute ce que vous êtes en train de dire, mais en règle générale, quand les autorités consulaires refusent l'attribution d'un visa, on reçoit un courrier et il y a des petites cases avec mille et un motifs et l'administration se contente de cocher une, deux, trois cases, peu importe. Très souvent, c'est dire, attendez, il n'y a pas suffisamment d'éléments qui prouvent que vous allez revenir au pays, ou vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir rester 15 jours, un mois sur le territoire français. Mais j'ai pas de client qui serait venu me consulter en disant, écoutez, j'ai reçu un mail, on me dit non. On reçoit à minima un petit courrier quand même, pour dire pour quel motif.
Non, les dossiers sont rejetés automatiquement puisque ça se fait électroniquement.
Ah monsieur, alors sauf si les clients qui m'envoient leur réponse négative par mail, mais ils les reçoivent pas électroniquement. Bon, alors écoutez, passons outre, mais dans ce cas-là, suffit ou il suffirait d'imprimer ce refus électronique, et puis il n'y a pas mille options. C'est-à-dire qu'ensuite, là, le service qui est compétent est un service qui se trouve sur le territoire français à Nantes. C'est la commission contre les refus de visa qu'il va falloir saisir. Et puis, cette commission dispose d'un délai de 2 mois. Alors, soit pour apporter une réponse express, c'est-à-dire qu'on vous dit, alors oui, on vous dit non, mais c'est écrit.
C'est à Nantes.
Ouais, c'est à Nantes, tout ça se passe à Nantes. Et si au bout de 2 mois, la commission vous a pas répondu, c'est ce qu'on appelle un refus implicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont saisis, ils ont 2 mois. Si au bout de 2 mois, il n'y a pas de réponse, c'est que c'est non. Et dans ce cas-là,
on est obligé. C'est forcément non.
Ah oui, voilà, ça faut le savoir.
C'est pas un oubli ou un retard de traitement.
Non, c'est pas un oubli. C'est ce qui fait qu'il faut toujours envoyer les recours en recommandé AR. Toujours. Et à partir de l'expiration du délai de 2 mois, s'il n'y a pas de retour, on considère que c'est refusé. On appelle ça un refus implicite. Et dans ce cas-là, ça ouvre une autre possibilité, c'est la saisine du tribunal administratif de Nantes, toujours. Il n'y a que Nantes qui s'occupe de ça.
Ok, d'accord. Parce que, d'autant plus que son extrait de naissance, je l'ai transcrit à Nantes.
Ce qu'il faudrait peut-être que, l'argument qui consisterait à dire, écoutez, il faut qu'il vienne parce que moi je suis blacklisté par les autorités algériennes. Si recours il doit y avoir, c'est peut-être une chose intéressante qu'il faudra mettre en avant. Alors, sous réserve évidemment d'avoir des preuves et autres, il suffit pas juste de dire, écoutez, voilà, je suis persona non grata au pays. Mais si vous pouvez éventuellement l'établir, alors je sais pas, il y a peut-être des articles et autres, mais si vous pouvez l'établir, ce sera quand même un argument intéressant.
Si ça a été établi dans la mesure où quand je suis arrivé dans les années 90, j'ai été reçu par l'abbé Pierre, et c'est l'abbé Pierre lui-même qui m'a fait toutes les démarches.
On va lui demander de témoigner.
L'abbé Pierre, il est en...
Ah zut oui. De l'au-delà. Ouais, non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que
Pas de mécréance.
Non, c'est vrai. Non, mais en plus, type sympa, l'abbé Pierre.
D'accord. Ok.
Vous comprenez.
En plus, j'ai été son médecin personnel.
D'accord. Bon, écoutez, mais on va pas vous croire sur parole. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Mais je crois que cet angle d'attaque peut être intéressant. Il a quel âge l'enfant?
L'enfant, il a 35 ans maintenant.
D'accord. Et il fait quoi au pays? Enfin voilà, je sais pas, il est marié, il a des enfants, il a un boulot?
Non, il est célibataire, il est commerçant.
D'accord, alors, vous savez, le très souvent, je dis pas que c'est toujours justifié, mais très souvent, pourquoi est-ce qu'on refuse des visas? On considère que la personne qui, entre guillemets, n'a pas d'attache particulière au pays, je vais l'autoriser à venir pour un temps déterminé, puis elle ne repartira plus. Donc il y a cet aspect-là, c'est ce qui fait que très souvent c'est refusé.
Non, il vient pas pour s'installer, moi bon.
Non, mais enfin, monsieur, il y a jamais personne qui me dit on vient pour s'installer. Mais je comprends ce que vous dites, mais les autorités françaises considèrent qu'elles se sont faites tellement de fois bluffer que quand on vient dire je viens pas pour m'installer, on finit par plus croire les personnes qui disent ça. C'est aussi la difficulté.
Bon, mes enfants, ils ont été les 3 autres ont eu des visas d'installation pour études.
Et ils sont où, là?
Hein?
Et ils sont où là? Ils sont repartis après leurs études ou pas?
Ils ont fait des études ici, ils ont été naturalisés. C'est de grands cadres maintenant.
Ouais.
C'est de grands cadres, c'est des ingénieurs.
Non mais voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais. que qu'on vienne pour des études ou pas, et quand on peut être naturalisé, c'est prévu par le droit, donc légitimement, ouais. il y a ouais. au sein des administrations, on considère qu'à partir du moment où on autorise quelqu'un à mettre le pied sur le territoire français, la probabilité pour qu'il reparte, elle est infinitésimale. Alors je dis pas que c'est bien, puisqu'après ça se conteste devant les juridictions, mais très souvent il y a ça derrière. Hein. Mais essayez peut-être encore une fois de mettre en avant le fait que le retour au pays pour vous est désormais impossible. Ça peut peut-être être jouable sur ce terrain-là.
Ok, d'accord. Je vous remercie.
Merci à vous pour votre appel.
Merci. Bonne journée.
Merci, Jamel, ancien docteur de l'abbé Pierre. Ouais. Il habitait à côté d'ici. Il était vers Maison-Alfort, l'abbé Pierre.
Ouais. Mais
ouais, il était à côté. Ouais.
Oui, l'abbé Pierre est mort de vieillesse, hein. Pas,
oui.
Pas,
non.
Donc c'est un très bon docteur.
Exactement.
Il est un très bon docteur. C'est il ça, a maintenu
c'est,
très
c'est,
longtemps.
C'est ce que vous pouvez vite dire de Jamel. Hein, il est mort très âgé.
Ouais. L'abbé. Bravo, docteur Jamel.
Bien.
C'est vrai.
Allez, Maître Serran sera avec vous vendredi prochain. Si vous voulez poser des questions, profitez du numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant.
Absolument. Joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serran qui travaille malgré et avec les grandes chaleurs.
Absolument.
Merci Maître Serran. Demain, c'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun qui sera là demain. Lui qui n'a pas chaud non plus hein, à partir de 10h.
Je suis là-bas.
Voilà.
Ouais.
Mais l'imam peut.
Il peut, voilà. Ouais. Sans slibar. C'est une option choisie toujours par l'imam.
Je vous préviens que l'imam écoute Maître Serran. Allez, affre Jojo, va. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour vos petites annonces de l'emploi sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.